émission Occupons les ondes sur CKIA 88,3 FM avec vos animateurs Luc Roland-Brunard et moi-même, Julien Lapierre.
Bonsoir Julien, bonsoir à vous tous, auditeurs, auditrices. En cette belle journée de printemps, malgré le mois de février, à Occupons les ondes ce soir, nous abordons quand même un sujet sensible, complexe et très important, notre système de santé. Malheureusement, un des premiers motifs d'indignation au Québec, tellement on a l'impression qu'il s'est détérioré dans les 20 dernières années. Notre équipe a décidé d'aller y voir de plus près. D'abord, cette impression est-elle fondée? Est-ce que le système a déjà été en meilleure santé? Et si oui, à quoi cela est-il dû et quels sont les éléments qui mériteraient des correctifs majeurs? Une chose qui me frappe, moi, personnellement, c'est qu'il me semble qu'avant, la santé, l'éducation, l'économie, c'était des enjeux qui étaient traités de façon séparée. Si on a toujours su que le ministre de la Santé se voyait attribuer son budget par celui des finances, on avait l'impression que celui-ci allouait les sommes selon les besoins établis pour chaque ministère et, bien sûr, les ressources disponibles. Mais voilà, les déficits monstrueux des années 80 et l'émergence du néolibéralisme ont mis au premier plan les questions économiques et tout d'un coup, tous les autres secteurs ont été considérés à l'aune de leurs coûts en dollars sonnants et trébuchants. Vous connaissez comme moi la suite, réforme à la chaîne dont aucune n'a apporté les résultats escomptés, coupures draconiennes, apparition des problèmes chroniques d'engorgement des urgences, des listes d'attente déraisonnables, frustration généralisée chez les travailleurs du secteur, pression des plus riches pour obtenir la permission de se payer des services privés et souvent par la même occasion contribuer moins au système public, explosion du coût des médicaments et j'en passe, et des meilleurs. On a même réussi à faire de la meilleure nouvelle de la fin du 20e siècle, c'est-à-dire l'augmentation considérable de l'espérance de vie humaine, un sujet d'inquiétude, voire de friction intergénérationnelle. L'idée que le vieillissement de la population soit une des causes de l'explosion des coûts en santé est presque devenue un cliché. Moi, je ne suis pas un expert du domaine, mais dans mon esprit, le problème n'est pas tellement de vieillir, surtout qu'on vieillit plutôt en santé par les temps qui courent. Le problème, c'est qu'il y a moins de jeunes qu'avant pour contribuer à la caisse, comme on dit, et surtout que la fiscalité des grandes entreprises semble scandaleusement injuste. Et je ne parle pas ici des paradis fiscaux qu'on a déjà évoqués à cette émission.
Donc, on peut dire que c'est quand même, somme toute, vraiment difficile de s'y retrouver, Luc. Donc, c'est important hein, comme sujet. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir poursuivre avec notre chroniqueuse tout à l'heure, Laetitia Koenig, qui va regarder ça de plus près avec nous. Donc, et qui va nous expliquer qu'est-ce qu'elle a découvert là, dans quelques instants. De son côté, plus tard à l'émission, notre fidèle chroniqueur Benjamin Clich s'est penché, lui, sur un autre élément qui pèse très lourd dans le système, soit l'industrie pharmaceutique. Donc, comme tu l'as mentionné tantôt, Luc, les médicaments, ça coûte cher. On en consomme des quantités astronomiques en Occident. Les compagnies qui les produisent, les multinationales privées pour la plupart, font des profits tout aussi astronomiques. On se pose plein de questions à leur sujet, à savoir, investissent-elles une part suffisante de ces profits en recherche et, développement? Cette recherche est-elle éthique? Et là, on pense aux essais cliniques dans les pays pauvres, dont on a parfois des échos plutôt inquiétants, ou encore à l'utilisation massive d'animaux qui subissent des traitements cruels, alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour affirmer que c'est non seulement pas nécessaire, mais que ce n'est même pas utile. Donc, il y a aussi toute la question du marketing exercé auprès des professionnels de la santé, médecins et pharmaciens, notamment, qui revient régulièrement dans les médias, mais dont on le sait, ça ne dure que quelques jours, à savoir qu'on balaie ça souvent sous le tapis, puis on finit par, oublier ces dénonciations, donc.
Bon, ben c'est pas très rose de ce côté-là non plus.
Pas vraiment, donc c'est ça, Benjamin va revenir justement nous parler, nous éclaircir ça pour nous dans sa chronique. Mais tout ça après que M. Michel O'Neill, notre invité de la semaine, nous ait brossé un tableau plus général du système de santé au Québec en le décrivant et en le comparant au système des autres pays développés. Maintenant, c'est la question sur laquelle il va répondre, fort de ses 35 années d'observation et d'analyse du système en tant que chercheur et professeur.
Bien, alors on va commencer avec Jacques Brel et sa chanson « Les vieux » et je vous rappelle que vous écoutez « Occupons les ondes » sur CKIA 88,3 FM.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillé de rêve, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. Et le temps d'un sanglot oublié toute une heure, la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant. Et l'autre reste là, le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas. Celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois en pluie et en chagrin, traverser le présent en s'excusant déjà de n'être pas plus loin, et fuir devant vous une dernière fois la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui leur dit je t'attends. Qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend.
Toujours à l'antenne de CKIA, à l'émission Occupons les ondes, où nous avons le plaisir, en ce début de cette émission du 22 février, qui a pour thématique le système de santé au pouls de l'économie, de recevoir une amie, Laetitia Koenig, qui se lance pour sa toute première chronique avec nous, mais qui devrait nous revenir tout au long de la saison. Donc, on a le plaisir de te saluer, Laetitia, bonjour.
Bonjour, Julien.
Bonjour. Donc, tu t'es penchée sur le vieillissement de la population, à savoir, si ce n'est qu'une question de coût, Et donc, on sait que le vieillissement de la population est dans toutes les bouches. Retraite à combler, soins de santé qui augmentent, l'engorgement des hôpitaux, difficulté à se trouver un médecin de famille. En somme, c'est des perspectives plutôt pessimistes.
Alors oui, Julien, effectivement, le vieillissement de la population, c'est un phénomène qui est bien réel, c'est pas un mythe. Alors si on observe la pyramide des âges, selon les estimations de l'ISQ en 2011, 15,7% des personnes ont plus de 65 ans, ce qui représente 1,3 million de Québécois. Et à l'horizon 2031, ça va être proche de 25% des personnes qui auront 65 ans et plus. Et puis, les plus de 80 ans, c'est le segment de la population qui a la croissance la plus rapide. Mais de là à parler d'une apocalypse, je ne penserais pas. Il serait peut-être plus sage de parler de nouveaux défis et d'amener justement la réflexion à repenser les différents âges de la vie. Alors, avant la vieillesse, on savait qu'elle était associée à la retraite, la maladie, la dépendance. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est un petit peu plus positive, dans un certain sens, puisque l'espérance de vie augmente, les gens vieillissent mieux, en santé, restent actifs plus longtemps aussi, et participent aussi de plus en plus à leur communauté.
Donc, on pourrait penser que c'est une nouvelle réalité à laquelle on pourra s'améliorer ou peut-être mieux s'adapter dans l'avenir.
Oui, effectivement. Alors, il faut savoir aussi que les gens se perçoivent en santé. Mm-hmm. C'est important que la plupart des gens se perçoivent encore en santé. Et ce qui est intéressant de constater aussi, c'est qu'une enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes a montré que, dans le fond, il faut différencier la santé. Alors, il y a la santé en termes généraux, mais il y a aussi la santé fonctionnelle. Ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est la capacité de réaliser des activités quotidiennes, aller à des rendez-vous, faire les courses, le ménage, etc. Et ça représente un réel défi, dans le fond, pour le système de santé. Alors, bien évidemment, cet aspect, il est important, et parce que la perte d'autonomie des gens en termes fonctionnels dans leurs activités courantes est selon moi et selon plusieurs...
C'est ce qui est le plus important.
C'est plus important.
C'est ce qui est à considérer. Alors, les aînés ont des besoins, bon, comme on disait, de services, probablement de proximité pour les aider dans leur quotidien. Mais quelles sont, disons, les solutions qui leur sont offertes?
Alors, on constate aussi que les aînés, bon, ils souhaitent rester plus longtemps dans leur domicile. Donc, ils font appel à des ressources de proximité comme leur famille, leurs proches, des services communautaires, etc. Puis, par exemple, on sait que les aidants naturels n'arrêtent pas d'augmenter. Dans le fond, on est passé de 600-700 000 à 2,7 millions de Canadiens qui aident, dans le fond, un de leurs proches ou un de leurs aînés.
Donc, finalement, on se trouve devant cette réalité où il y a de plus en plus de personnes vieillissantes, tout ça. De plus en plus, on dirait que le poids se retrouve sur les aidants naturels qui doivent un peu remplir la mission qu'aurait le système, là, finalement.
Oui, effectivement. Puis, le problème qui se pose, c'est l'essoufflement, justement, des aidants naturels. On voit qu'il y a la plupart manquent le travail, utilisent leur propre économie personnelle, donc c'est quand même des chiffres assez importants. Puis ils ont trois fois plus de chances de tomber aussi malades à leur tour. Alors, juste un petit chiffre encore intéressant, j'aime ça les chiffres.
Mais c'est important, ça donne... en tout cas, quand tu nous as partagé ça l'autre fois, c'était assez fracassant comme...
Ouais. Les aidants naturels apportent quand même, évitent dans le fond au système de santé global, selon une estimation la plus conservatrice, 25 milliards annuellement au Canada et représenteraient 5 milliards au Québec.
Donc, c'est des coûts qu'on économise d'une part, mais qui peut-être, quand on disait que ces gens-là se retrouvent souvent de l'autre côté, fatigués, épuisés, peut-être en arrêt de travail, tout ça. Fait que, bon, c'est un coût qui va se relancer de l'autre côté, à l'autre bout du système, là, finalement.
Effectivement. Ouais. Puis, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que, bon, il y a des crédits d'impôt qui sont accordés aux aidants naturels, mais il manque de ressources pour alléger, dans le fond, ces services qu'ils offrent et pour les soutenir aussi. Donc, il y a des carrefours qui ont été ouverts, des projets pilotes, mais ça manque énormément de ressources pour les aidants naturels.
Donc, c'est ça, au Québec, la part des aidants naturels, comme tu disais, représente à peu près combien de sous?
5 milliards.
C'est 5 milliards, c'est vraiment beaucoup. Bon, donc, ceux qui peuvent faire appel aux proches pour améliorer leur santé fonctionnelle, sont finalement
ceux,
les...
ceux qui peuvent pas dans le fond.
Ceux qui peuvent pas, ouais.
Ben, c'est la plupart du monde atterrissent dans le fond d'urgence parce que il y a pas de soins de première ligne qui sont suffisamment efficaces. Donc oui, ils ont accès à un médecin par exemple. La plupart des personnes âgées ont accès à un médecin, mais ils font pas de visite à domicile. Donc c'est comme un cercle vicieux. La santé se dégrade. Mm-hmm. Ils ont personne qui peuvent les ramener, etc. Donc ils se retrouvent aux urgences. Ça a un impact en fait sur
L'engorgement des urgences ou tout ça, puis
etc.
Ça crée vraiment un problème un peu comme un cercle vicieux là dans le système de santé.
Exactement.
Donc le défi serait d'intensifier finalement les services en amont pour éviter les séjours inappropriés à l'urgence et peut-être le recours prématuré à l'hébergement de longue durée, car les coûts sont bien dans l'hébergement, je pense.
Oui, effectivement, les coûts les plus importants qui sont dépensés pour les personnes âgées actuellement, c'est l'hébergement. Et ça, c'est un problème. Alors, s'il y avait des services de première ligne plus efficaces, permettraient le retour à la maison, des services communautaires qui pourraient aider les aînés à rester à domicile plus longtemps.
Donc, ça serait une des solutions à mettre de l'avant.
Oui,
donc, malheureusement, faute de temps, on peut pas continuer parce que c'est vraiment intéressant comme ce que tu nous amènes là, comme sujet, comme angle pour parler du système de santé. Donc, on aurait aimé, je sais que tu auras l'occasion de nous revenir tout au long de l'émission. En tout cas, merci pour ta chronique. Maintenant, on va rapidement s'en aller en chanson avec les colocs séropositifs Boogie.
Un soir, la gare Montparnasse, ce soir, beau soir, cafard de joie, ce soir, mon poste, où c'est pas très jouasse, juste l'heure, la sortie du turbin, avec moi-même, j'avais un tyran carré, histoire de voir mon bilan en santé, pas de chance, mec, t'es vraiment tricard. Elle tu bien, bien tu la pognes, séropositif Boogie, séropositif Boogie, séropositif Boogie. Oh, oui, je suis pointé à mon petit amour. Toi, depuis que tu pour quelques dollars, si on a blues, d'avoir perdu ta job, tout est beau. très bien, ils pardonnent pas. C'est au positif,
bogey.
Donc, toujours à l'antenne de CKIA 88,3 FM à l'émission Occupons les ondes. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir comme invité M. Michel O'Neill, docteur en sociologie et, comme on l'a dit plus tôt en introduction, un homme qui a beaucoup d'expérience en matière de santé publique, puisque professeur associé à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval à Québec. Donc, bien le bonjour, M. O'Neill.
Bonjour, bonjour.
Bonjour. Donc, maintenant, j'aimerais ajouter que vous avez été professeur-chercheur au niveau universitaire pendant près de 35 ans, dont les 30 premières années à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Donc, d'abord, pour ça, j'aimerais quand même prendre le temps de vous féliciter parce que quelque chose, une longue carrière comme celle-là.
Ah, ça, quand on vieillit.
C'est ça.
Il y a plus d'années en arrière qu'il y en avait en avant.
Voilà. Donc, parmi ces thèmes que vous avez enseignés et auxquels vous avez investi du temps en recherche, il y a les aspects historiques et politiques de l'évolution de certains types de services de santé au Québec et dans le monde. Vous avez fait au-delà de 300 publications, livres, articles de toutes sortes sur ces sujets que l'on vient d'énoncer, donc en plus de centaines de conférences que vous avez données partout à travers le monde.
J'ai l'air important.
Je trouve que c'est quand même assez impressionnant, oui, effectivement, là, comme expérience. Et maintenant, chers auditeurs, auditrices, pour ce qui est de l'entrevue d'aujourd'hui avec M. O'Neill, nous allons procéder en deux temps, d'environ 6 minutes chacun, séparés par une chanson. Donc, en première partie sera abordé quel genre de système de santé avons-nous au Québec et comment se compare-t-il à ce que l'on retrouve ailleurs au Canada et dans le monde. Puis, en deuxième partie, comment l'économie mondiale a-t-elle influencé notre système récemment et qu'est-ce que cela augure pour le futur? Donc, voilà, M. O'Neill, je débuterai l'entrevue en vous posant une question de base qui pourrait apparaître fort simple, mais qui n'est peut-être pas si évidente pour tout un chacun. Donc, c'est quoi un système de santé?
Oui, en fait, un système de santé, on entend parler de ça souvent. Notre premier ministre Charest appelle ça un système de soins de santé. Il y a toutes sortes de monde qui appelle ça par toutes sortes de noms. Mais en fait, il y a à peu près une quarantaine d'années, il y a un sociologue, Mark Field, qui a donné, je pense, ce qui est la définition la plus utile. Mm-hmm. Il disait, dans chaque société, à chaque moment donné, il y a un certain nombre des ressources disponibles dans la société qu'on choisit de concentrer pour régler ce que lui appelait les 5D. Les Américains sont forts, les affaires de même.
Ouais,
alors,
bon.
Death, disease, disability, dysfunction et puis discomfort. Donc, la mort, tous les enjeux autour de la souffrance, de la maladie, de la mort, on prend toujours des ressources qu'on utilise pour régler ces problèmes-là. Mm-hmm. Dépendamment des sociétés, ça va être la magie, ça va être la religion, etc. Mais on choisit toujours de concentrer un certain nombre de ressources pour ça. Et si on regarde dans une société comme le Québec, les ressources qu'on concentre pour les problèmes de santé autour PIB sont à peu près de 12%. Ça veut dire qu'on met 12% de notre argent collectif, ça c'est ce qui est compté officiellement dans le PIB, là, pour régler des problèmes de santé. Et ça compte à la fois des choses de l'argent privé. Si je m'en vais voir, je ne sais pas moi, une guérisseuse spirituelle parce que je pense que ça va me guérir, bien là je paye de ma poche.
Oui, oui.
Alors que si je vais à l'hôpital ou si je vais dans un CLSC ou voir le médecin, c'est plus le système public de santé.
Donc tout ça est comptabilisé puis donne
12% du PIB. Et on sait aussi que si on regarde les dépenses publiques gouvernementales, le système de santé, c'est de loin la plus grosse dépense, avec à peu près 45% de l'ensemble du budget du gouvernement du Québec.
Voilà, OK. Fait que c'est ça, c'est considérable. Puis, on parlait peut-être du système de santé qu'on a au Québec. Comment pourrait se définir, disons, plus précisément?
Oui. En fait, les sortes de systèmes de santé, il n'y en a pas une infinité, puis ça dépend des valeurs des sociétés. Quand on a des sociétés de type un peu plus solidaire, on trouve que la santé, c'est un droit et c'est un service qui est garanti par l'État. Et ça, c'est comme l'extrême, c'est d'un côté, puis il n'y a plus trop de ça. L'extrême, extrême, c'est les pays communistes où c'était vraiment là, le gouvernement qui organisait tout pour tout le monde.
Oui, oui.
Puis à l'autre bout complètement, on a l'individualisme qui est la valeur centrale où les soins de santé sont un produit de consommation que tu achètes comme des bottines ou n'importe quoi d'autre.
Comme on pourrait penser aux États-Unis à ce moment-là.
C'est ça, mais en même temps, les États-Unis, au 19e siècle, si on peut dire, parce que là, encore, il y a une partie qui est quand même publique du système américain, même si on le sait.
OK, voilà, je savais pas.
Pour les personnes pauvres et les personnes âgées, il y a une partie publique qui est très petite, mais et au Québec, nous, on est dans ce spectre-là, on est plus vers les sociétés solidaires. On est encore un des systèmes dans le monde qui a mis beaucoup d'accent sur que ce soit l'État qui garantisse les services aux personnes et aux populations. Et ça, on a ça assez fortement ancré et à comparer à d'autres provinces même ou même à d'autres pays. On se fait encore traiter de communistes. Là. Mm. J'ai encore allé il n'y a pas très longtemps aux États, là, puis c'est ça qu'ils nous disaient.
Mm. Parce que c'est quand même important. C'est quelque chose qu'on s'est donné, je pense, sous Bourassa, hein, l'assurance maladie et tout ça. Puis je ne sais pas si les auditeurs ont déjà eu l'occasion de voir ça, là, de Michael Moore, je n'ai plus le titre exact. Mais ça dénonce en fait le système de santé aux États-Unis, à quel point c'est exécrable. Hein? On pense à un système qui est un pays qui est très développé, mais qui finalement laisse crever le monde dans les rues.
Là. Il y a 20 millions d'Américains qui ne sont pas assurés. Là.
Voilà, fait que ça amène des problèmes quand même, tout ça. Fait que, bon, c'est quelque chose qu'on s'est donné, qu'on a travaillé fort pour installer ici au Canada ou au Québec. Donc, comment maintenant on pourrait comparer ça à d'autres pays que le Canada, disons, avoir dans le monde?
En fait, on peut se dire qu'on est un système, pour dire très vite, qui est très efficace, mais qui nous coûte très cher.
Okay.
Et on se compare bien en termes de résultats, mais en même temps à des coûts qui pourraient être beaucoup moindres. Alors, on aura l'occasion d'y revenir
tout à l'heure.
Mais en gros, on peut dire ça.
Bon. Ben, donc, on continue en chanson, si vous le voulez bien, avec une courte pause. Donc, un groupe que j'adore, les Charbonniers de l'Enfer, avec Bienvenue chez les humains.
Il est venu de beaux gendarmes braves, j'en retenais vos larmes.
Il est venu de beaux gendarmes braves, j'en retenais vos larmes.
Ils sont restés sur le palier, mauvaise nouvelle à annoncer.
Madame, votre fils est trépassé, désolé. Sont repartis sur le chemin, sans même lui prêter la main.
Dieu sait qu'elle en avait besoin.
Bienvenue chez les humains.
Il est venu de contre-maître brave, j'en ferme vos fenêtres.
Il est venu de contre-maître brave, j'en ferme vos fenêtres.
On va démolir à côté, sûrement que ça va vous ébranler.
Et que vos murs vont fissurer, désolé. Y a des problèmes, c'est certain, quand on vit en milieu urbain.
Payez un avocat demain.
Bienvenue chez les humains.
Il est venu de beaux internes braves, j'en cachais vos lanternes.
Il est venu de beaux internes braves, j'en cachais vos lanternes.
Madame, on va vous opérer, trancher votre féminité.
Ça sert à rien de se lamenter, désolé. Allons, ça se passera bien, c'est pas grand-chose, presque rien.
À votre âge, n'avez plus besoin.
Bienvenue chez les humains.
Il est venu deux infirmières braves, j'en dites vos prières.
Il est venu deux infirmières braves, j'en dites vos prières.
La pauvre vieille était tombée après avoir bien appelé.
Madame, on va vous attacher, désolé. Elle a pleuré, c'était en vain. On n'a pas le temps ce matin.
Lui ont bridé ses pauvres mains.
Bienvenue chez les humains.
Donc, on revient après cette belle chanson, toujours à notre émission où aujourd'hui on se penche sur notre système de santé. Donc, en deuxième partie avec M. O'Neill, on continue à se poser la question, en fait, maintenant, à savoir comment l'économie mondiale a influencé notre système récemment. Puisqu'on sait que, bon, notre système s'est transformé récemment, qu'est-ce que ça apporte comme nouvelle donne, disons?
Oui, ben en fait, si on regarde le moment où notre système a commencé à bouger un peu, là, c'est beaucoup dans les années 70. Et puis, dans les années 70, on avait organisé notre système de santé pour la première fois, mais en même temps, c'est le moment où, dans l'économie mondiale, avec les chocs pétroliers, on a commencé à avoir un peu de misère dans les gouvernements où on mettait beaucoup d'argent dans les systèmes de santé à pouvoir continuer à en mettre. Et ça, c'est un mouvement, en fait, où après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu vraiment beaucoup d'engouement pour que les gouvernements interviennent. Mais à partir des années 70, vu qu'il y avait moins d'argent, là, ça a commencé à aller moins bien par rapport à ça. Et puis, on a commencé à avoir des pressions de plus en plus, c'était évoqué par votre... collègues...
Au début de l'émission, oui.
Oui, au début de l'émission, des pressions des mouvements néolibéraux pour que, finalement, les gouvernements sortent, si on peut dire, du marché, de se préoccuper des soins de santé pour mettre ça... public. Ça ne peut pas public, privé.
Plus privé, oui, c'est privé. Ça, voilà.
Et en fait, ça, on a vu ça partout à la grandeur de la planète, puis on a vu ça en particulier dans les pays pauvres, qui avaient à beaucoup d'endroits mis sur pied des systèmes publics de santé qui fonctionnaient relativement bien et qui ont été forcés de démanteler complètement à partir de ce qu'on a appelé les politiques d'ajustement structurel dans les années 80-90. La Banque mondiale disait, vous êtes pauvres, vous voulez qu'on vous prête, OK, on vous prête, mais il y a quelques petites conditions, vous fermez votre système de santé et on envoie des entreprises privées. On en a même des Canadiennes là, qui compétitionnent ces marchés-là un peu partout. Et donc, ces entreprises-là font de l'argent avec les problèmes de santé des gens.
C'est comme s'ils se posaient en sauveur pour ces pays-là, mais qui, en même temps, ça donne un réel coup à l'endettement de ces pays-là, puis ça ne les aide pas vraiment.
Ouais, en tout cas, ça pose là, toutes sortes de problèmes. C'est le genre de problèmes aussi qui s'en viennent tranquillement pas vite chez nous. Parce que si on regarde depuis les années 70, notre système a relativement... peut bouger, quoi qu'on en dise. Si on regarde en comparaison l'Ontario d'abord, l'Alberta, la Colombie-Britannique au Canada, on a coupé massivement dans les systèmes de santé, mais on a toujours la pression d'avoir des systèmes plus privatisés. Mais c'était le gouvernement fédéral qui était le garant de le système public parce que lui transférait de l'argent à des conditions qui étaient vraiment de garder un système public. Et maintenant, avec le genre de gouvernement fédéral qu'on a, vous avez vu récemment que les accords de santé ont été imposés par le gouvernement fédéral. Et puis depuis, disons, une trentaine d'années, le fédéral est passé d'à peu près 50% de ce qu'il payait, des coûts de santé, à 10% à peu près.
Est-ce que vous parlez, en fait, du fédéral, mais est-ce que c'est pas plutôt les conservateurs, là, avec l'avenir des conservateurs, finalement?
Oui, mais depuis qu'il n'y a plus d'argent, donc même depuis les libéraux avant, ça a commencé à couper. Et tout ça, dans le fond, est accéléré, si on peut dire.
Par la crise financière actuelle, l'état de l'économie mondiale en ce moment.
Exactement. Là, et donc, il y a des pressions très, très fortes. On en entend tous les jours parler pour que ça change et qu'on s'en aille plus privé, même au Québec. Alors, c'est un peu ça que ça a fait comme...
Comme transformateur. C'est ça ce qu'on peut voir, puis ce qu'on peut voir s'annoncer. En fait, c'est inquiétant, finalement.
Oui. Bien, les tendances, en fait, pour l'avenir, c'est assez difficile à dire, mais c'est certain que la tendance lourde depuis 30-40 ans partout dans le monde, et au Québec, on a résisté longtemps, mais on commence à être fragile à ça, c'est à s'en aller vers la privatisation et de que l'État se retire de son rôle de garantir des soins de santé comme droit un peu partout. Alors ça, c'est une tendance lourde. Une autre tendance lourde, c'est l'enjeu de travailler sur d'autres choses que le système de santé comme déterminant de la santé. Les facteurs qui, d'une certaine manière, contribuent à la santé, la plupart se trouvent hors du système de santé.
C'est en fait ce qui est un peu autour, là, finalement, ce qui se pose un peu, c'est ça, en fait, tous les problèmes de pauvreté ou plein de problèmes sociaux sur lesquels on pourrait avoir peut-être plus...
C'est très clair que, par exemple, le salaire minimum dans un pays est un facteur très grand de lié à la santé. Plus on voit en Grèce qu'on est en train même de couper le salaire minimum. Mais on peut dire que chez nous, là, ces enjeux-là se posent de façon aussi dramatique.
Fait que donc, maintenant, c'est ça. Puis on a des acquis ici dans notre système. Fait que, puis je pense que beaucoup de la population en général, puis probablement même les politiciens, veulent quand même tâcher de maintenir ces acquis-là, mais y a-tu comme des solutions? Y a-tu des choses qui sont...
Je pense qu'il y a un enjeu de génération.
De génération,
oui, ouais. Entre autres, parce que les gens de mon âge, les bébés boomers, etc., on est relativement attachés à cette vision-là du système de santé, mais les plus jeunes générations, puis si on est à Québec ici, puis on regarde comment les gens votent, notamment, on se rend compte que c'est pas si évident. Quoi faire pour maintenir les acquis? Ben d'abord, développer son esprit citoyen, puis aller voter. Les partis proposent pas toutes la même chose. Et dans le fond, si on regarde le parti de M. Legault ou la PQ ou au Québec solidaire, c'est très différent. Et pour conclure, il y a une lettre qui a été envoyée récemment aux journaux, qui n'a pas encore été publiée, mais qui a été signée par 38 des chercheurs les plus significatifs dans le domaine de la santé.
Je voulais y faire référence, je l'ai lu, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très intéressant puis encourageant, finalement.
Puis la grande conclusion de ça, c'est plus on s'éloigne d'un système public, plus on met en péril la santé de la population.
Voilà. Je pense que ça termine bien la chronique. Puis, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Puis, faut pas oublier qu'avec notre émission Occupons les ondes, on va faire un lien avec le site Occupons Québec et on pourra peut-être mettre cette lettre-là à annexer ça avec le site Occupons Québec. Donc, merci, Michel, pour Monsieur O'Neill, pour cette belle chronique. Maintenant, on poursuit en chanson avec Microsite du groupe Beast.
Yeah.
Bonjour Benjamin, je suis avec Benjamin Clich et aujourd'hui c'est à toi qu'on a confié la délicate tâche de te pencher sur un élément majeur associé à notre système de santé, les compagnies pharmaceutiques, et je pense que tu as découvert que c'était un secteur d'activité plutôt rentable.
Oui, effectivement, Luc, j'ai fait quelques recherches là-dessus au cours des derniers jours. Puis effectivement, les compagnies pharmaceutiques, c'est un marché qui est très puissant et très rentable. Si on regarde quelques chiffres, en réalité, des chiffres de 2009, en première place, on a Pfizer, qui est la plus grosse compagnie pharmaceutique du monde. On parle d'un chiffre d'affaires de 75 milliards de dollars.
75 milliards de dollars.
Et là, en fait, ce ne sont pas que quelques-unes. Il y en a plusieurs dizaines avec des chiffres d'affaires astronomiques, donc suivi de Merck & Company de 47 milliards de dollars, Hoffman 43 milliards de dollars, Novartis 40 milliards de dollars. Alors, c'est vraiment les compagnies pharmaceutiques. Dans le domaine privé, évidemment, est un marché qui est très, très puissant et très rentable.
Oui, ils n'ont pas grand-chose à envier aux pétrolières. On entend souvent parler des pétrolières, des banques, mais là, ici, on a...
Exactement, c'est vraiment non négligeable là, dans la part du marché, là, les compagnies pharmaceutiques. Moi, la question que je me pose, c'est que, effectivement, les compagnies pharmaceutiques sont essentielles, finalement, à l'humanité, dans le sens qu'elles vont apporter des médicaments qui vont guérir l'humanité, apporter des vaccins, apaiser les maladies et souffrances. Mais d'un autre côté, ça reste des compagnies privées qui sont assujetties, finalement, au dogme de l'économie marchande dans laquelle nous sommes, qui est de maximiser ses profits. Alors, on apprend ça à la petite école. L'entreprise privée cherche à maximiser ses profits. Donc, moi, en fait, je me pose simplement la question, n'y a-t-il pas contradiction, finalement, entre l'intérêt public, qui est de guérir l'humanité, finalement, qui est une cause noble, et l'intérêt privé, qui est de maximiser ses profits? On peut se dire que, finalement, les compagnies pharmaceutiques ont un intérêt. S'ils veulent maximiser ses profits, on peut se dire qu'ils ont un intérêt à ce que les gens soient malades, finalement. Donc, c'est un peu la question que je me pose aujourd'hui. Puis, peut-être avec un exemple qui est intéressant, c'est sur la consommation des psychotropes.
Oui, qui est en explosion, je crois, ces dernières années.
Qui est en explosion dans l'ensemble de l'Occident, aux États-Unis, en France, en Europe en général, mais également au Québec. Si on regarde quelques chiffres, C'est assez impressionnant, là, finalement, la hausse, par exemple, des antidépresseurs. En 1998, on parlait de 1,6 million d'ordonnances au Québec. Et en 2010, combien tu penses qu'on a d'ordonnances?
Oui, je ne pourrais pas deviner, sincèrement.
13 millions. 13 millions d'ordonnances.
13 millions.
Donc, on a vraiment une hausse vertigineuse de la consommation d'antidépresseurs. Et c'est la même chose, par exemple, pour le Ritalin, qui est associé au déficit.
13 millions d'ordonnances. De prescriptions, et on est 8 millions de Québécois,
8 millions,
à peu près. Là.
Donc, on peut imaginer qu'une personne va plusieurs fois par année voir son docteur pour avoir des antidépresseurs. Alors là, évidemment, le point, c'est pas de se dire d'être pour ou contre les antidépresseurs, parce que bon, dans mes recherches, je regardais, il y a des gens qui disaient ça m'a beaucoup aidé de la consommation, ça m'a aidé de ma dépression. Mm-hmm. C'est pas le point. Le point, c'est simplement de mentionner que cette tendance-là, une hausse vertigineuse des psychotropes au cours des 10-15 dernières années, en fait, est très profitable pour l'industrie privée, les compagnies pharmaceutiques, mais très coûteux pour la société. Donc, encore là, une espèce de dualité entre l'intérêt public et l'intérêt privé. Et on peut se demander quelle est finalement la...
On peut se poser beaucoup de questions.
Moi, personnellement, c'est des chiffres qui m'interrogent beaucoup.
Parce qu'on peut penser que, bon, si les gens en ont plus besoin qu'avant, c'est peut-être parce que la vie est plus difficile,
exactement,
d'une part, mais d'autre part, on peut soupçonner une grosse machine de marketing aussi derrière ça, non?
Bien, c'est ça. Donc, c'est quoi l'explication de cette hausse vertigineuse-là de consommation de psychotropes? Ça peut être, effectivement, on vit dans une société qui est très stressante, le boulot est stressant, le risque de craquer plus grand qu'auparavant. Mais d'un autre côté, on peut se dire, en réalité, les compagnies pharmaceutiques vendent un produit, et comme toutes les autres compagnies, pour vendre un produit, elles font du marketing. Donc, et elles le font. Donc, les compagnies pharmaceutiques font du marketing.
Est-ce qu'elles ont des méthodes similaires aux autres compagnies?
C'est exactement la même chose. Moi, je suis tombé sur des publicités aujourd'hui sur Prozac, Zoloft, qui sont les antidépresseurs les plus vendus. C'est vraiment... ça a été une grosse campagne publicitaire aux États-Unis, donc au début des années 2000, pour aller voir votre médecin si vous vous sentez un peu déprimé. Et là, on se demande si, justement, ce marketing-là des compagnies pharmaceutiques va faire en sorte que on accède trop facilement aux pilules. T'sais. Puis on a eu même une enquête effectuée par le Journal de Montréal en 2006 qui a visité à peu près 11 médecins. Et sur les 11, il y en avait 10 qui ont prescrit en moins de 5 minutes les pilules d'antidépresseurs. Donc voilà, c'est vraiment un questionnement. C'est pas de juger le pour ou le contre, là, mais c'est vraiment de se questionner par rapport à effectivement la puissance des compagnies pharmaceutiques et du marketing qu'elles peuvent faire et de quelle manière ça va influencer finalement la prise de médicaments partout en Occident.
Bien, ben écoute, je remercie beaucoup. On va en musique avec je cherche. on vous le dira après.
Si l'espoir n'est pas de ce monde, il naît de ce monde. Si l'espoir n'est pas de ce monde, il naît de ce monde-ci. Il n'est nulle part de monde aussi beau que celui-ci. Dans la rue, je lève le poing, je l'ouvre, regardez-le, c'est votre main, la voyez-vous? Dans la rue, je demande, je parle avec des mots. Écoutez-les, ce sont vos propres paroles. Entendez-vous? Si ce n'est que le vent, il souffle pourtant.
C'est votre chair et votre sang, le sang.
C'est un garçon, touchez-le. C'est votre chair et votre sang, le sang. T'es vous. Dans ses yeux clairs, je vois flou. Je les frotte, séchez-les, ce sont vos larmes. Les goûts, tais-vous, voyez-vous. Bras et jambes entremêlés, jouer du coude pour avancer, tendre la main et se brûler, se propager, comme une pluie d'étincelles, comme ces cris dans la ruelle qui nous appelle. Qui appelons-nous? Si ce n'est que le vent, il souffle pourtant. Si ce n'est que le souffle, c'est déjà la vie qui fuit. L'habitude nous emmure dans son armure. On se croit de bois, on se croit de fer. Soudain, on est parfait pour l'enfer. Cœur de pierre, seul sur terre, qui sombre au fond de la rivière, emporté par les remous qu'on aurait pris sur nos genoux. Comment cette souffrance ne serait pas mienne? Comment ne serait-elle pas tienne?
Donc, bonjour et toujours de retour à l'émission Occupons les ondes pour vous dire que la chanson qu'on vient d'écouter était Serre et Moni du groupe Ivy. Donc, on passe maintenant à l'agenda de la semaine. D'abord, dès ce soir, mercredi 22 février à 19h, on vous annonce une super conférence à ne pas manquer qui aura lieu au Centre Culture et Environnement Frédéric Bach au 870 Salaberry à la salle Michel Jordan au local 322. Organisée par les Amis de la Terre, donc une conférence ayant pour titre « L'énergie au Québec à la croisée des chemins » par Daniel Breton, cofondateur du groupe Maître chez nous, 21e siècle, où il propose donc, ce Daniel Breton, au Québec de devenir indépendant face aux énergies non renouvelables via un grand chantier de projet au bénéfice de tous les Québécois, et ce, alors que le gouvernement actuel, vous le savez, s'en va exactement dans la direction contraire. C'est donc une conférence qui promet d'être vraiment intéressante, voire passionnante, pour tous ceux qui ont à cœur que l'on prenne soin de notre environnement. Maintenant, ensuite, c'est ça, le 23 février, sachez qu'à Montréal, il y aura une manifestation, toujours dans le cadre de la grève étudiante, hein, on en entend parler dernièrement, donc contre la hausse des frais de scolarité. Le rendez-vous est à 13h au Square Philips, au cœur du centre-ville de Montréal, sur Sainte-Catherine, coin Place Philippe. C'est tout près, pour ceux qui connaissent peut-être moins la Place Philippe, du Labbé sur Sainte-Catherine, là, donc en plein cœur du centre-ville. J'imagine que ça va être difficile de manquer au nombre qui devrait être rassemblé là. Donc, c'est organisé, ça, la manifestation, par la classe qui... c'est-à-dire la coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Maintenant, toujours pour demain, le 23 février, ici à Québec, notre émission Occupons les ondes, sommes fiers de vous annoncer qu'aura lieu une soirée festive organisée par Occupons Québec sous le thème de l'indignation, avec comme groupe de musique invité la Ritournelle. L'entrée pour la soirée n'est que de 5 $, soirée qui débutera à 20h30 au bar L'Ostradamus, au 29 rue Couillard, tout près de la rue Saint-Jean, en Hauteville. Donc, entre les portes Saint-Jean, là, c'est sinon, ben, vous voyez, L'Ostradamus, ça doit être facile à trouver. Cette soirée-là sera également l'occasion de récolter vos vœux pour l'année 2012 en tant qu'indigné. Des vœux qui permettront de faire état de l'indignation actuelle des Québécois. En espérant vous voir nombreux, bien sûr, répondre à l'appel pour discuter, s'indigner et surtout s'amuser et faire connaissance. Pour, disons, réobtenir de l'information en vue de cette soirée festive ou bien simplement pour le plaisir de découvrir le super site Internet d'Occupons Québec, je vous invite donc à visiter le www.occupons.québec.com. .org. On y va maintenant avec samedi prochain, le 25 février. De vous inviter, ou bien pour vous le rappeler, Occupons Québec tient son Assemblée générale dès 16h, toujours au même endroit, au bar L'Ostradamus, 29 rue Couillard. Alors, ben, venez-y en grand nombre pour y découvrir l'exercice de la démocratie participative et pour passer de l'indignation à l'engagement, au passage à l'action. Donc, il y a place à l'implication et nous sommes toujours heureux de partager et de rencontrer de nouveaux visages. Ensuite, en ce qui concerne la cause étudiante, ici même à Québec, donc pour le droit à la scolarité et par le fait même contre la hausse des frais de scolarité, à Québec, donc, aura lieu une grande manifestation le 1er mars. On va déterminer le lieu et l'heure. On devrait savoir ça bientôt. À la prochaine émission, on reviendra avec ces précisions. Donc, maintenant, je passe pour les nouvelles internationales avec mon cher Simon.
Bonjour. Oui, donc, il me fait plaisir d'être de retour pour la revue de presse de cette semaine et l'agenda des événements à venir. Donc, cette semaine, il y a encore une foule d'actions de toutes sortes qui ont eu lieu aux États-Unis, dont une journée nationale d'action en support aux prisonniers, qui incluait plusieurs revendications, dont l'abolition des conditions inhumaines de certaines prisons. On peut penser, par exemple, à cette prison de Californie, qui s'est vue obligée par la Cour suprême à réduire le nombre de prisonniers en ses murs, qui était démesuré et qui a obligé, et en fait, qui a mené à des souffrances inutiles et à la mort, toujours selon la Cour suprême. Autre revendication, la libération des prisonniers politiques et la fin de la répression contre les activistes, ainsi que le développement des écoles et non des prisons. Notons qu'on ne va pas exactement dans ce sens-là non plus ici au Canada avec nos futures méga-prisons. Sinon, à venir, un calendrier assez chargé pour la semaine prochaine. Le 27 février, plus de 60 occupations participent à une journée pour un approvisionnement alimentaire sain, durable et propre. Donc, autant la création de jardins communautaires que des manifestations contre les géants de l'agro-industrie sont prévues. Le lendemain, 28 février, des manifestations contre la suppression coordonnée du mouvement Occupy auront lieu et réaffirmeront que ce mouvement est durable, déjà bien implanté et très bénéfique pour l'ensemble de la population. On poursuit avec la conclusion de Luc.
Oui, nous voici donc déjà presque au terme de cette 5e édition d'Occupons les ondes, préparée par toute une équipe que je vous présente. Et d'abord, je remercie déjà Julien et Simon pour cet agenda. À la recherche, nous avons eu Charles-Eugène Bergeron et Isabelle Cyr, la muse qui plane au-dessus de toute l'équipe. Laetitia Koenig et Benjamin Clich ont été nos chroniqueurs du jour. L'agenda international vous a été présenté par Simon Michaud-Blais, comme je viens de le dire, et qui a assumé aussi le choix musical. À la réalisation et à la mise en onde, l'inébranlable et dévouée Marie-Hélène Demel, M. Michel O'Neill était notre invité ce soir en tant que spécialiste du système de santé québécois. Julien Lapierre et moi-même, Luc Roland-Brunard, avons eu le plaisir de questionner pour vous tout ce beau monde. Notre rendez-vous est hebdomadaire. Nous souhaitons donc vous retrouver mercredi prochain à 17h sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Depuis trop longtemps, le seul discours entendu est qu'il faut payer de plus en plus cher pour un système de santé de moins en moins performant. Ça ne peut plus durer. Les responsables de cette situation ne sont ni les travailleurs du secteur, ni les usagers, ni les personnes âgées, mais plutôt une gestion à courte vue influencée par cette idéologie néolibérale qui ne trouvera rien de mieux à nous dire qu'il faut, il vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade, comme disait autrefois l'humoriste Yvon Deschamps. Je ne peux que vous inviter à demeurer vigilant devant ce discours et à vous impliquer comme citoyen dans la revendication du retour à un système public efficace et universel. Voilà, alors je vous souhaite une excellente semaine. On va écouter La Mama de Charles Aznavour et pendant ce temps-là, l'équipe de Mes Amis de filles va venir s'installer au studio. Donc je vous invite à rester des nôtres sur les ondes de CKIA FM 88,3 et je vous souhaite une merveilleuse semaine.
Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là. Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi. Les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil. Elle va mourir là, maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que Santa se pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveillées, elle va mourir là. Un enfant après une bonne journée pour qu'il sourit en s'endormant. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi. Jamais.